Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce dimanche 29 janvier 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les crimes meurtriers israéliens ravivent le risque d'une escalade dangereuse. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les relations irano-azerbaïdjanaises reposent sur les affinités culturelles et historiques, indéfectibles et indissociables. L'Iran repousse une attaque de drones contre l'un de ses ateliers liés à son industrie de défense dans le centre. Et puis un séisme fait au moins 3 morts et plus de 800 blessés dans le nord-ouest de l'Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les relations irano-azerbaïdjanaises reposent sur les affinités culturelles et historiques indéfectibles. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le président iranien Ibrahim Raisi a souligné que les relations amicales et fraternelles entre les deux nations étaient fondées sur des liens culturels et historiques indissociables et ne doivent pas être affectées par les insinuations des malveillants des deux pays. Au cours de l'appel téléphonique, dans la soirée du samedi 28 janvier, au lendemain de l'attaque meurtrière contre l'ambassade de la République d'Azerbaïdjan à Téhéran, le président iranien a présenté les condoléances du gouvernement et de la nation iranien à son homologue azerbaïdjanais. Les gouvernements iraniens et azerbaïdjanais ne permettront pas que les relations mutuelles soient affectées par les malveillants des deux nations, a déclaré le président iranien, soulignant les liens culturels et historiques indissociables que partagent les deux pays. Un assaillant armé est entré le vendredi 27 janvier dans la mission diplomatique de la République d'Azerbaïdjan à Téhéran et a commencé à tirer. Le président iranien Ibrahim Raisi a immédiatement ordonné le lancement d'une enquête approfondie sur l'affaire et exprimé ses condoléances au gouvernement et à la nation azerbaïdjanaise ainsi qu'à la famille de l'employé tué. L'assaillant a été arrêté lors de l'enquête préliminaire. L'agresseur a évoqué comme motif des problèmes personnels et familiaux. Le président du Parlement iranien part pour l'Algérie afin de participer à la réunion de l'Organisation de la coopération islamique. Avant de se rendre en Algérie pour participer à la réunion de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, le président du Parlement iranien a déclaré que l'Afrique est l'une des opportunités culturelles et économiques les plus importantes du monde islamique. Mohammad Borrell Ghalibaf a quitté Téhéran pour l'Algérie afin d'assister à la réunion de l'OCI samedi après-midi. Le président du Parlement a déclaré que plus de 20 présidents du Parlement viendraient à la réunion avec un accent sur la modernisation et le développement du monde musulman. Compte tenu de la profanation des sanctuaires islamiques et de l'islamophobie persistante contre l'humain islamique dans les pays occidentaux, outre la situation intense en Palestine occupée, il a souligné que la tenue d'une réunion de l'OCI dans cette situation est d'une grande importance. La République islamique d'Iran soulèvera une question novatrice lors de cette réunion sous le titre de « Monde islamique, solidarité pour la paix et le développement durable », a-t-il ajouté. Évoquant les rencontres mutuelles conjointes avec l'Algérie en marge de la rencontre, il a réitéré que l'Afrique est l'une des opportunités culturelles et économiques les plus importantes dans le monde musulman aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar est en visite à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères qatari se trouve à Téhéran ce dimanche. Il a été reçu cet après-midi par son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian. Le ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Sani, qui s'est rendu hier à Ankara, la capitale turque, doit discuter aujourd'hui avec le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, ce dimanche, au ministère des Affaires étrangères, à Téhéran, des questions bilatérales d'intérêt commun et d'importantes questions régionales et internationales. Le ministère iranien de la Défense a déclaré avoir repoussé une attaque de drones contre l'un de ses ateliers dans le centre de l'Iran. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que l'atelier, situé dans le centre-ville d'Isfahan, avait été attaqué par 3 mini-drones. Il a indiqué que l'un des drones assaillants a été touché par la défense aérienne et que 2 autres ont été pris dans des pièges de la DCA iranienne et explosés. Il a ajouté que l'attaque ratée grâce à la vigilance de la DCA iranienne n'a causé aucune perte de vie et n'a causé que des dommages mineurs au toit de l'atelier. Le ministère a noté que l'attaque n'avait pas non plus perturbé les opérations de l'atelier. Un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé le nord-ouest de l'Iran, tuant 3 personnes et en blessant des centaines d'autres. Le tremblement de terre a frappé la ville de Khoy, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, en fin de soirée. Les répliques se sont poursuivies pendant plusieurs heures. Il a infligé des dégâts à de nombreux bâtiments, dont certains ont été totalement détruits. Les opérations de secours sont en cours malgré le froid. Le premier vice-président iranien a ordonné la mobilisation de toutes les ressources possibles pour entrer en aide et secourir les zones touchées. Selon le Croissant Rouge iranien, 417 tonnes d'aide, dont des tentes, des couvertures et de la nourriture, sont en route pour la région. Il y a quelques semaines à peine, la région a également été secouée par un séisme de magnitude 5,8 qui a fait des centaines de blessés. L'Iran se trouve à la rencontre de plusieurs plaques tectoniques et connaît une forte activité sismique. Autre thème, l'Iran qualifie de génocide les charniers d'enfants autochtones au Canada. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, les nouveaux rapports sur la découverte de nouvelles fosses communes d'enfants autochtones canadiens sont l'exemple d'une tragédie humaine majeure pour laquelle il n'y a d'autre qualification que de génocide. L'annonce goutte à goutte de la découverte de ces charniers montre la profondeur de la catastrophe humaine et rappelle les crimes qui se sont produits pendant le règne tyrannique et raciste des Blancs sous le contrôle des Britanniques, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Nasser Kanani samedi 28 janvier. Et de poursuivre que ces crimes horribles ont eu lieu dans un pays où le gouvernement ne cesse de tenter de se faire passer pour un ardeur défenseur des droits de l'homme, mais s'ingère dans les affaires intérieures d'autres pays en adoptant un ton revendicateur par rapport aux événements. Il a considéré les slogans et les allégations du gouvernement canadien comme motivés pour faire dévier de sa trajectoire la vérité de sa participation à cette tragédie humaine, et ce en accusant d'autrui. Ce qui montre, ajoute-t-il, que ce gouvernement, tout comme ses alliés, exploite les droits de l'homme comme un outil pour imposer leur opinion politique biaisée. Nasser Kanani a exprimé son profond regret et son inquiétude face à l'ampleur de ces crimes historiques, dignes d'être qualifiés de génocide, avant d'exprimer sa sympathie à la population autochtone canadienne. Ces crimes inhumains ne seront jamais cachés aux yeux des épris de la justice, et le gouvernement canadien doit répondre de son passé sombre, a-t-il conclu. 66 tombes anonymes potentielles d'enfants indigènes ont été mises au jour près d'un ancien pensionnat en Colombie-Britannique dans l'ouest du Canada. Son macabre découvert porte à 159 le nombre de sépultures retrouvées sur le site en l'espace de quelques mois. Enfin, le Conseil des gardiens de la République islamique d'Iran approuve le projet de loi sur l'adhésion de l'Iran à l'OCS. Le porte-parole du Conseil des gardiens au Parlement iranien a déclaré que le projet de loi pour l'adhésion de la République islamique d'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai a été examiné et approuvé par l'organe de vérification des législations. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Les crimes meurtriers israéliens ravivent le risque d'une escalade dangereuse. Les forces israéliennes ont tué un autre Palestinien près de la ville occupée de Naplouse, en Cisjordanie, ce dimanche. L'homme a été abattu près de la colonie de Kedumim, à l'est de Qalqilia. Les médias israéliens affirment que le Palestinien était en possession d'une arme à feu et soupçonné d'avoir mené une opération de tir. Ceci alors que les troupes israéliennes sont en état d'alerte suite à deux opérations de tir dans la ville occupée d'Al-Rots. Le premier incident s'est produit vendredi lorsqu'un Palestinien a tué 7 colons près d'une synagogue. Le second s'est produit samedi lorsqu'un garçon palestinien de 13 ans a blessé 2 Israéliens. Ces incidents font suite à un raid israélien sur le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupée qui a coûté la vie à 9 Palestiniens jeudi. En réaction au raid meurtrier israélien à Jenin, l'autorité palestinienne a décidé de mettre fin à la coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020. Les attaques palestiniennes contre Israël ont fait l'objet de nombreuses louanges sur des comptes en arabe sur les réseaux sociaux. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué l'attaque qui a fait 7 morts parmi les colons israéliens. Le mouvement affirme que c'était une réponse naturelle au raid sanglant d'Israël sur le camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie occupé jeudi. Il a déclaré que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou paierait le prix de toute nouvelle erreur que Tel Aviv pourrait commettre. Le djihad islamique palestinien a également salué l'opération. La branche armée du mouvement du djihad islamique a salué l'attaque, la qualifiant d'opération courageuse et a exprimé son soutien aux Palestiniens qui résistent au régime israélien. Elle a déclaré que l'attaque était une réponse naturelle et évidente à la présence du régime de Tel Aviv en terre palestinienne et à ses atrocités contre les Palestiniens. Les brigades Al-Rots ont également déclaré que l'opération témoignait de l'unité entre les groupes de résistance. Les Palestiniens dénoncent l'inaction de la communauté internationale face aux crimes perpétrés par les occupants israéliens. On assiste à d'innombrables exécutions sommaires commises en toute tranquillité dans les rues et dans divers coins de la région sous forme et sous prétexte d'assaut. Israël prend une série de mesures d'escalade en réponse aux fusillades à Al-Quds occupée. Il s'agit notamment de faciliter l'obtention de permis d'armes aux Israéliens et d'encourager les titulaires de permis à porter leurs armes. Le régime de Tel Aviv a également déclaré qu'il démolirait les maisons des assaillants palestiniens présumés et révoquerait certains droits de leurs familles, y compris leurs cartes résidentielles et leurs prestations de sécurité sociale. Israël a également promis de nouvelles mesures pour étendre les colonies illégales en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne envisage également d'envoyer davantage de troupes dans Al-Quds occupée. Le premier ministre extrémiste israélien Benjamin Netanyahou avait précédemment promis une réponse forte, rapide et précise, selon ses mots, aux tirs meurtriers. Il a dit que le régime est prêt à tout scénario.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de débat. En effet, l'artillerie israélienne et Israël a lancé des frappes aériennes contre Gaza, contre la bande de Gaza assiégée, un jour après avoir frappé la Cisjordanie occupée et avoir tué au moins 10 personnes. En réponse, c'est la résistance palestinienne qui a lancé des roquettes sur les territoires occupés. De leur côté, les mouvements de résistance palestinienne, à savoir le djihad islamique et également le Hamas, ont annoncé qu'ils n'allaient pas rester les bras croisés et que des opérations de représailles étaient déjà en cours contre le régime sioniste et les territoires occupés. Dans cette émission, nous allons passer en revue ces informations, ces événements et les tensions qui sont palpables dans les territoires occupés, ces provocations et ces crimes de guerre commis par le régime sioniste sous silence des instances internationales. Mais nous allons évoquer ce sujet avec deux analystes. Avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues à ce sujet. On revient tout de suite après.
Israël a lancé des frappes aériennes sur la bande de Gaza assiégée un jour après avoir tué au moins des Palestiniens en Cisjordanie occupée, incitant la résistance palestinienne à tirer des roquettes sur les territoires occupés en représailles. Le Centre d'information palestinien a déclaré que des avions de guerre israéliens ont attaqué des zones à l'ouest et au sud de Gaza, y compris des postes appartenant à la résistance palestinienne, jeudi soir et vendredi à l'aube. Les brigades Ezzedine Qassam, branche militaire du mouvement de résistance islamique de la Palestine Hamas, ont annoncé tôt vendredi matin que la défense aérienne de ce groupe avait repoussé les avions de combat de l'armée israélienne dans le ciel de la bande de Gaza. Selon l'agence de presse palestinienne Sama, des missiles solaires des brigades Ezzedine Al-Qassam ont intercepté les appareils israéliens dans le ciel de la bande de Gaza. Le site web israélien Hadashot Hamot a également confirmé que des missiles antiaériens avaient été tirés par la résistance palestinienne pour repousser les avions de combat de l'aviation israélienne qui frappaient des cibles dans la bande de Gaza. Sur 8 missiles tirés depuis l'enclave côtière sur Israël, 3 ont frappé Ashkelon, 3 Eshkol, un char Hanegev et l'autre Kfar Aza, a-t-on appris de la même source en allusion aux attaques de missiles et de roquettes de la résistance sur les colonies de peuplement avoisinant la bande de Gaza. Les combattants palestiniens ont lancé cette opération en riposte aux raids aériens des chasseurs bombardiers israéliens ayant touché à 15 reprises un centre appartenant aux forces de la résistance. Des sources de sécurité au Hamas ont également confirmé que les appareils israéliens avaient frappé à 15 reprises l'enclave palestinienne sans faire de blessés. L'aviation israélienne a également ciblé avec des missiles un site de la résistance au sud de la ville de Gaza ainsi que les alentours d'un point de surveillance à l'est de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza. Des sources locales ont également rapporté que la défense antiaérienne des groupes de résistance palestinienne avait fait face au nord de Gaza à des appareils israéliens. La résistance a tiré deux missiles solaires vers les avions de chasse israéliens dans le ciel de Khan Younes, précisent les sources.
Je dis bonjour à nos deux invités, deux experts des questions internationales, l'un qui est avec nous depuis Bruxelles et l'autre qui est avec nous depuis Vaucluse, depuis la France. Luc Michel, géopoliticien, est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonjour à votre équipe et à vous-même et à Monsieur Cornu, bien entendu, que j'ai toujours plaisir à retrouver.
Merci, voilà, vous l'avez dit, Bernard Cornu est notre deuxième invité qui est avec nous en direct depuis la France, Vaucluse. Monsieur Michel, si vous voulez bien, on commence avec vous. Dans un premier temps, avant de rentrer dans les détails du sujet, à votre avis, quels sont les objectifs de ces provocations, de ces attaques contre le Gaza, contre la Cisjordanie occupée, ces jeunes qui sont morts durant ces combats? À quoi cherche en fait, qu'est-ce que cherche le régime sioniste à travers ces provocations?
Mais écoutez, le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou a vu la constitution d'un gouvernement d'extrême droite. Un dirigeant du Hamas, il y a quelques semaines, a dit que tout justement, c'était un gouvernement néo-fasciste. Ce gouvernement s'est constitué avec la droite israélienne, la droite religieuse, qui participait déjà à la précédente majorité anti-Netanyahou. Il est fondamental pour le Likoud, donc, de garder la main sur ces partis politiques extrémistes et donc qui multiplient les démonstrations, les provocations. On a dit fort justement que c'était un test pour le gouvernement Netanyahou, puisqu'il doit prouver évidemment qu'il est un gouvernement extrémiste capable de mener la guerre contre les Palestiniens. Les provocations israéliennes, elles ont conduit à deux phénomènes. D'une part, on est en face d'une véritable guerre qui mobilise les chasseurs israéliens et la DCA palestinienne. D'autre part, le combat qui était celui des sionistes contre les Palestiniens, il était en train de déboucher sur une guerre ethnique, malheureusement, entre juifs et palestiniens. C'est cela qu'il faut retenir. C'est Netanyahou, malgré toute la propagande qui est développée dans les médias occidentaux, c'est Netanyahou qui est le seul responsable, avec le ministre de la Sécurité israélienne, Ben Gvir. Ce sont les deux responsables de la situation actuelle.
Merci. Restez en ligne, Luc Michel. Bernard Cornu, vous êtes avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous, dans un premier temps, quels sont les objectifs de ces provocations, ces crimes de guerre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Luc Michel?
C'est une guerre d'occupation qui continue et de bombardements incessants et avec évidemment des ripostes de la résistance palestinienne qui a pas beaucoup de moyens et qui est prête parfois à sacrifier des gens pour pouvoir ne pas laisser sans réaction, hélas, les morts qu'il y a eu il y a quelques jours à Jénine, dans le camp de Jénine. Voilà, donc je remarque que le président Biden a regretté, s'est exprimé sur l'attentat qu'il y a eu hier en riposte. Il ne s'était pas exprimé sur les 9 ou 10 morts qu'il y a eu à Jénine ces jours-ci. Donc tant que les Nations Unies et l'Europe n'interviendront pas pour faire cesser l'impunité de l'État israélien et menacer d'intervenir par usage de la force et de tous les moyens selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, comme il devrait faire depuis longtemps, cette guerre continuera, il y aura toujours des morts, des blessés, des destructions. Et donc sans doute l'État israélien devra être engagé à payer des réparations pour toutes ces destructions et toutes ces vies humaines perdues.
Merci, merci Bernard Cornu. Restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Luc Michel, en ce qui concerne les opérations de représailles des mouvements de résistance palestinienne, à savoir le djihad islamique et le Hamas, il y a une opération baptisée Quds qui a été en fait pour, comme le disaient les autorités de ces mouvements de résistance, pour venger les sangs des martyrs écoulés par ces attaques et pour, par ces crimes de guerre israéliens. Et comment interprétez-vous ces représailles des mouvements de résistance palestinienne?
Mais écoutez, c'est la guerre et aujourd'hui, la participation des Palestiniens à l'axe de la résistance font qu'ils sont dotés d'armes performantes, des drones et des missiles et qu'ils sont capables de résister aux Israéliens. Ce que veulent les Israéliens, c'est empêcher un État palestinien et c'est nettoyer ethniquement la Palestine. C'est le résultat des accords d'Abraham. Bien loin d'avoir amené la paix, Donald Trump a imposé les accords d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a déclenché un processus de captation du territoire de la Palestine et de Jérusalem par les Israéliens. C'est cela qu'il faut retenir dedans, évidemment. Et aujourd'hui, des Palestiniens qui sont désespérés, qui n'ont plus rien à perdre, ne sont plus décidés à accepter la domination israélienne.
Et Luc Michel, comment interprétez-vous cette politique de bouclage d'Israël qui empêche en fait la plupart des habitants de Gaza de se rendre en Cisjordanie et donc en fait cette bande de Gaza qui est assiégée depuis des années?
C'est une politique évidemment de terreur pour les Palestiniens et c'est une politique qui est contraire aux droits de l'homme. Il faut retenir également que les Israéliens n'hésitent pas puisqu'ils tirent à balles de guerre réelles sur des enfants, c'est l'intifada. Et par exemple, les militants qui sont pris dedans, dans des actes anti-israéliens, Israël pratique une politique de persécution des familles qui a été mise au point sous le troisième régime Hitler. C'est ça qu'il faut savoir. On détruit les maisons des familles palestiniennes, on viole leurs biens, on arrête leurs parents, etc. C'est une politique évidemment scandaleuse, totalement contraire aux droits de l'homme. Mais on ne parle pas de ça ici, en Occident, puisque le discours médiatique, c'est de présenter les Israéliens comme des victimes. Il suffit d'écouter la presse française depuis 48 heures.
Justement, Bernard Cornu, Luc Michel vient de parler de cette campagne médiatique. C'est pas seulement dans le sujet israélien et palestino-israélien, c'est surtout sur tous les dossiers de la région, en fait, que ce soit en Syrie, en Ukraine, Russie, etc. Comment peut-on interpréter cette campagne médiatique, mais surtout ce silence des instances internationales, de l'ONU, des instances qui devraient réagir dans ces cas, mais qui sont muettes, en fait?
Il y a le problème bien connu du sentiment de culpabilité des Européens et bien sûr des Allemands, mais beaucoup de pays ont collaboré avec les Allemands pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale et l'occupation des territoires européens. Donc il y a ce sentiment de culpabilité face au génocide qu'ont subi les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ou à sa fin. Et donc ceci est exploité par les mouvements sionistes pour reprocher à des dirigeants politiques qu'ils font des remarques sur cette situation de guerre et d'occupation pour leur reprocher qu'ils n'ont pas à entendre de critiques de la part de gens qui ont été des bourreaux du peuple juif. Donc ceci est exploité massivement pour contrer, à tel point que bien qu'il y ait un mouvement anti-sioniste assez fort dans tous les pays, y compris en France, y compris aux États-Unis, dans les universités, l'attaque classique contre ces mouvements et dire qu'ils sont antisémites, ce qui est complètement faux, puisque d'ailleurs il y a de nombreux juifs antisionistes, des historiens, des militants qui veulent aussi que cette attitude criminelle de l'État israélien occupant qui fait souffrir durablement, enfin très durement, l'ensemble des communautés palestiniennes dans les territoires occupés, mais aussi en Israël même, puisqu'on a appelé ceci une politique d'apartheid. Il n'y a pas de réaction, et pas assez de réaction, alors que le seul moyen, c'est d'appliquer le droit international fermement, comme cela a été appliqué ailleurs, donc à part une résolution au chapitre 7 des Nations Unies, et avec la menace du recours à la force pour faire cesser l'occupation des territoires palestiniens par l'armée israélienne.
Merci pour vos explications, Bernard Cornu. Alors, Luc Michel, on s'attendait, hein, avec l'arrivée de Benjamin Netanyahou au sein du régime sioniste avec son nouveau cabinet, à de l'extrémisme, à plus d'attaques, à plus de crimes de guerre. Mais est-ce qu'on s'attendait à autant d'atrocités, en fait, en si peu de temps? Et j'aimerais aussi avoir votre réaction en ce qui concerne cette campagne médiatique dont vous en avez parlé un tout petit peu.
Mais tout d'abord, la haine, elle était prévisible, puisque ce sont les plus radicaux des Israéliens, la droite religieuse, des gens comme Lieberman, Ben-Gvir, qui sont des criminels en puissance. Et le Likoud aujourd'hui, il est hégémonique sur la scène israélienne. On parle de likoudisation, c'est-à-dire ce sont les sionistes extrémistes. D'où vient le Likoud? Le Likoud vient de ce qu'on appelle le sionisme révisionniste des années 30, celui de Jabotinsky. C'était les fascistes sionistes, admirateurs de Mussolini, qui ont collaboré avec des nazis. Évidemment, ils étaient marginaux dans les années 30, 40 et 50, mais aujourd'hui, ils sont hégémoniques, aussi bien en Israël que dans les diasporas israéliennes. C'est cela qu'il faut retenir, évidemment. Lorsque Netanyahou prend la parole, il prend la parole derrière d'immenses posters de Jabotinsky. La théorie de Jabotinsky, c'est d'une part le grand Israël du Nil à l'Euphrate, c'est-à-dire en annexant des territoires égyptiens, palestiniens et syriens, mais c'est aussi le théoricien des murailles d'acier d'Israël, c'est-à-dire que le sionisme repose sur la force militaire de ses armées. Ce n'est pas étonnant qu'avec une telle idéologie, qui s'est implantée également en France et aux États-Unis, qu'évidemment on débouchera. Maintenant, la question des manipulations médiatiques. Il faut retenir la présence de milliardaires israéliens, notamment dans la presse française. Par exemple, vous avez le patron de BFM TV ou d'I24, c'est un milliardaire israélien. Et évidemment, ils imposent le tempo à la presse française, en sachant que les autres, évidemment. Il y a des représentants du Likoud. Meyer Habib, par exemple, qui est un député français, qui a la double nationalité, c'est le représentant officiel du Likoud au gouvernement français, au Parlement français. C'est cela qu'il faut retenir. Donc il y a une influence de ces gens. Il ne s'agit pas d'un vote d'ailleurs, comme on le dit, d'un lobby pro-juif, parce que ça n'existe pas. C'est un lobby pro-israélien, le CRIF en France ou l'AIPAC aux États-Unis. La puissance de l'AIPAC aux États-Unis, elle fait que c'est la principale organisation pour récolter des fonds électoraux. Les Juifs votent démocrates ou républicains, mais l'AIPAC finance tout le monde, depuis les élections locales des shérifs et des juges de paix jusqu'à la campagne présidentielle. Ça explique la puissance de ce lobby.
Merci pour vos explications. Luc Michel, on pourrait également évoquer en fait l'axe de la résistance, tous les pays qui sont membres de l'axe de la résistance et leur réaction qui pourrait parvenir dans les jours à venir, n'est-ce pas?
Écoutez, le fait que maintenant l'axe de la résistance est présent en Palestine et qu'il a réconcilié l'OLP et le Hamas qui étaient divisés suite à des manœuvres israéliennes depuis presque deux décennies. C'est important. Il faut également souligner que derrière l'axe de la résistance, il y a aujourd'hui la Russie. La bienveillance de la Russie vis-à-vis d'Israël, elle n'existe plus, suite à la guerre en Syrie, mais aussi à la position pro-ukrainienne du gouvernement de Netanyahou.
Merci. Et Bernard Cornu, vous, à votre avis, quelle serait la réaction de l'axe de la résistance, les pays membres de cet axe de la résistance qui ont déjà fait leurs preuves à travers les diverses épreuves dont a passé cette région avec le régime sioniste. Cette fois, quelle sera cette réaction?
Je vais juste compléter. Le père de Benjamin Netanyahou, le premier ministre actuel, donc son père était secrétaire de Jabotinsky, qui est donc ce chef du mouvement d'extrême droite sioniste des années 30. Et toute cette influence s'est effectivement étendue dans tous les mouvements sionistes d'Europe. Et il y a beaucoup effectivement de personnes influentes dans les médias, dans la politique, même au Parti socialiste, par exemple, qui fait qu'il est très difficile à des personnes compétentes dans ces systèmes, quand ils sont anti-sionistes, de promouvoir la légitimité de la lutte palestinienne, de la revendication de créer un État indépendant conformément à la résolution de 1947. Donc ça, c'est l'infiltration dans les politique et médiatique français est bien connu. Et donc, c'est ceci qui permet à ce milieu d'avoir beaucoup d'influence sur le politique interne des États européens. Pour ce qui est de la résistance, effectivement, la résistance palestinienne a besoin d'être soutenue. Elle est soutenue au Moyen-Orient, évidemment, car le Hezbollah, elle est soutenue par l'Iran. Et elle est soutenue par de nombreux mouvements associatifs en France, en Allemagne, dans d'autres pays européens et même aux États-Unis. Elle appelle à ces nouveaux gouvernements élus démocratiques.
Je pense que le son a été coupé avec Bernard Cornu. Luc Michel, en ce qui concerne les évolutions à venir, à quoi devrait-on s'attendre dans les jours, les semaines à venir, à votre avis?
Je crois qu'il faut s'attendre à une radicalisation. Ce soir, il y a une réunion du cabinet de sécurité d'Netanyahou après le Shabbat. On est bien certain qu'il faut prendre des mesures radicales. Ils ont déjà décidé de détruire la maison des parents des Palestiniens impliqués, évidemment, dans les actions de ces derniers jours. Ce qu'il faut retenir aussi, suite à ce qu'a dit M. Cornu, c'est que dès que vous soutenez les Palestiniens, vous êtes catalogué comme antisémite. Moi, depuis mon adolescence, dans les années 70, je soutiens la cause palestinienne. Ça m'a valu la réputation d'être un antisémite, ce que je ne suis pas. Au contraire, il y a en 1992, l'Antisémitisme World Report, qui est édité à Jérusalem par les sionistes, qui a déclaré que mon parti, le PCN, n'est pas un parti d'extrême droite et n'est pas un parti antisémite, mais antisioniste. Ça ne m'empêche pas de subir ce climat de terreur dans des milliers de publications, notamment sur Wikipédia, de fausses biographies. Je suis catalogué d'antisémite. C'est cela, évidemment, qui fait la toute-puissance des Likoudniks, en particulier en France et en Belgique.
Merci pour vos explications, Luc Michel. Je pense que la connexion a été coupée avec Bernard Cornu. Bernard Cornu, est-ce que vous m'entendez? Eh bien, je pense que la connexion a été coupée. On a 2 minutes devant nous. Luc Michel, le mot de la fin est à vous.
Ben, écoutez, aujourd'hui, la cause palestinienne était en recul depuis les 2 dernières décennies. Moi, quand j'étais jeune, donc il y a 50 ans, il y avait des grandes manifestations pro-palestiniennes à Londres, à Bruxelles, à Paris, à Berlin. Depuis 2 décennies, c'était fini. Aujourd'hui, il y a de nouveau l'opinion publique mondiale qui est avec les Palestiniens. Ils ont un soutien international. Et évidemment, les gens comme Netanyahou, ils apparaissent pour ce qu'ils sont. Un gouvernement raciste, d'extrême droite, même néo-fasciste. Évidemment, tout cela fait que les Palestiniens, aujourd'hui, ils sont encore un espoir d'emporter la victoire.
Merci infiniment. Alors, Luc Michel, géopoliticien, Bernard Cornu, politologue, était avec nous pour ce débat. Nous avons révisé les évolutions en Palestine occupée, mais surtout les atrocités commises par le régime sioniste à Jenin, mais aussi dans la bande Gaza assiégée. Merci à vous, à toutes et à tous, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
rubrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre sur une nouvelle édition de l'Afrique Économie, une émission durant laquelle nous allons réviser en revue les informations les plus importantes au niveau économique dans le continent africain. Restez avec nous. En marge du sommet Dakar 2, le Kenya, qui connaît présentement une baisse de la croissance, veut nouer de nouvelles coopérations avec les autres pays du continent. Les secteurs du commerce et de l'agriculture sont, entre autres, les domaines que le gouvernement souhaite renforcer. Le Kenya a entamé une véritable offensive diplomatique en marge du sommet Dakar 2. Les autorités en profitent pour renforcer les relations à divers niveaux avec les États africains afin de débloquer des opportunités de commerce et d'investissement pour les Kenyans, a-t-on découvert sur le site web de la présidence ces derniers jours. En effet, le gouvernement kényan vient d'inaugurer sa première ambassade en Afrique de l'Ouest francophone, notamment au Sénégal. Selon le président William Ruto, cette ambassade contribuera à faciliter les services et sera un lien avec le gouvernement du Sénégal et le secteur privé. L'initiative s'inscrit dans l'optique de repousser les limites afin que les investisseurs et hommes d'affaires kényans accèdent à davantage de marchés en Afrique. Outre le Sénégal, le chef de l'État a eu des échanges avec ses homologues de Zimbabwe et du Mozambique. Là aussi, William Ruto s'est engagé à renforcer les relations diplomatiques ancrées sur l'expansion du commerce, de l'agriculture et de l'investissement et a donné la priorité à la valeur ajoutée agricole, en particulier dans les secteurs du thé, du sucre et du café, particulièrement au Mozambique. Afin de fournir un cadre amélioré pour le commerce et l'investissement, sans obstacle inutile, le président Ruto a par ailleurs exprimé la nécessité pour tous les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, de la communauté de développement de l'Afrique australe et du marché commun de l'Afrique orientale et australe de ratifier l'alliance tripartite qui réunit les blocs des trois régions. L'économie du Kenya connaît actuellement une légère perte de vitesse selon les dernières estimations économiques. En effet, l'Office national de la statistique a révélé en décembre dernier que l'économie du pays s'est limitée à 4,7% au troisième trimestre 2022 contre 9,3% durant la même période de 2021. Dans la même veine, la Banque mondiale prévoit que la croissance de l'économie kényane ralentira légèrement sur le moyen terme pour s'établir à 5% en 2023 et à 5,3% en 2024 contre une estimation de 5,5% en 2022. Au Kenya, l'agriculture reste encore largement tributaire de la pluviométrie alors que les conditions climatiques extrêmes comme la sécheresse touchent le pays, l'irrigation offre une solution pour assurer la continuité de la production agricole et améliorer la sécurité alimentaire. Au Kenya, l'exécutif a procédé le jeudi 26 janvier au lancement d'une nouvelle feuille de route pour booster l'irrigation dans le secteur agricole. Baptisé Stratégie nationale des services d'irrigation, ce programme nécessitera un investissement global de 389 milliards de shillings et sera mis en œuvre sur une période de 4 ans allant jusqu'en 2027. L'enveloppe servira principalement à financer le développement des infrastructures d'irrigation, la construction de structures de collecte et de stockage d'eau, le renforcement des capacités des producteurs ainsi que la mise en œuvre de programmes de soutien ciblés et de gestion de l'eau au profit des agriculteurs. Selon Alice Waume, secrétaire au cabinet du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, ces interventions devraient permettre d'augmenter la superficie irriguée de plus de 200 000 hectares pour atteindre un total de 445 000 hectares à terme, contre un niveau actuel tournant autour de 271 000 hectares. Notre pays est confronté à des défis en matière de sécurité alimentaire en raison de la sécheresse permanente due au changement climatique. L'irrigation offre la meilleure intervention pour relever ces défis, explique la responsable. Au Kenya, le potentiel d'irrigation des terres agricoles est évalué à 1,2 million d'hectares d'après les données de l'exécutif. Dans le pays, le secteur agricole fournit 22% du PIB et emploie environ 54% de la population active. Après des mois de contre-performance liée au vol du brut, les autorités nigérianes veulent maintenir la dynamique positive de la production d'or noir gagnée ces dernières semaines. Au Nigeria, le régulateur du segment amont de l'industrie pétrolière a annoncé ce vendredi 27 janvier qu'il a lancé une procédure visant à accroître la transparence et la crédibilité des activités relatives à la production d'or noir dans le pays. Dans le cadre de cette démarche, conforme à la loi que réglementent les opérations dans l'industrie pétrolière, la NUPRC souhaite renforcer le dispositif qui permet de déterminer, de vérifier et de certifier la production pétrogazière effectivement réalisée. L'objectif, d'après Benga Komolafe, le responsable de la NUPRC, c'est de pouvoir établir les potentiels écarts entre les chiffres fournis pour le segment amont et ceux relatifs au segment intermédiaire. L'essentiel, précise Komolafe, consiste à pouvoir assurer un suivi responsable et une vérification pertinente de la production, en particulier celle issue des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement, des installations gazières et des systèmes de production intégrés. Cette mesure est liée à la volonté des autorités nigérianes de stimuler l'industrie pétrolière locale et devrait permettre au gouvernement d'engranger davantage de recettes fiscales en augmentant le niveau d'exigence attendue des opérateurs d'installations pétrogazières. Inaugurée il y a un an, l'usine d'assemblage de véhicules de Kumasi a livré les premières unités sorties de sa chaîne de production, lesquelles entrent désormais en phase d'exploitation sur les routes du pays. 40 minibus sortis de l'unité de montage de véhicules de Kumasi en Côte d'Ivoire ont été mis en service. Le jeudi 26 janvier, les véhicules ont été confiés à des entreprises de transport en commun de Yopougoun et d'Abobo dans le cadre du programme de renouvellement du parc automobile piloté par le Fonds de développement du transport routier FDTTR au profit du ministère des Transports. Il constitue la première vague d'une série de 1000 véhicules devant être produits par an par l'usine inaugurée en janvier 2022. Outre les minibus, cette unité de montage devrait aussi produire des ambulances, des camionnettes frigorifiques et divers types de véhicules utilitaires, notamment pour le transport de matériel et de marchandises diverses. La remise des clés aux opérateurs de transport intervient pendant la phase dédiée au PACA, appellation courante pour les minibus de transport en commun privé dans le pays. Le programme, lancé en 2017, s'est au début concentré sur la flotte de taxis urbains connue sous le nom Ivoire Taxi. Plusieurs centaines de véhicules neufs avaient aussi été remis. « Le recours aux énergies renouvelables se démocratise depuis quelques années dans le secteur minier africain. À Fekola, la centrale solaire actuelle a été mise en service en 2021 et dispose d'une capacité de 30 MW. Au Mali, la capacité de la centrale solaire de Fekola sera augmentée de 22 MW crête d'ici le troisième trimestre 2024. C'est l'annonce faite le vendredi 27 janvier par le Canadien B. de Gold qui précise que cela entraînera une réduction de 24 000 tonnes par an des émissions de gaz à effet de serre de la mine. Le projet d'agrandissement de la centrale s'inscrit en effet dans le cadre de l'objectif de réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 et 2 de la compagnie d'ici 2030 par rapport au niveau de 2021. Il faut dire que plusieurs compagnies minières ont élaboré et dévoilé ces dernières années des stratégies climatiques afin de répondre aux pressions des investisseurs et aux appels des organisations écologiques à Fekola. Les travaux de construction devraient démarrer au troisième trimestre 2023. À son entrée en service, la centrale agrandie entraînera une réduction de 7,6 millions de litres par an en moyenne de la consommation de mazout lourd à la mine, permettant donc à la société de réaliser des économies sur le long terme. Pour rappel, la centrale solaire de Fekola en service depuis avril 2021 dispose d'une capacité de 30 MW. Elle alimente le deuxième plus grand de mine d'or du Mali et dont la production pour l'année 2022 a atteint 598,61 onces.